Bonsoir et bienvenue à cette rencontre qui rassemble quatre écrivains, un traducteur et une comédienne, puisque nous allons, outre le débat qui était prévu, nous allons également, et c'est une bonne chose d'ailleurs, pouvoir entendre les textes des quatre auteurs qui sont rassemblés là. Donc je vous propose qu'on commence par un premier temps de discussion, de débat, on écoutera les textes et puis on aura un deuxième moment de discussion. Alors, le sujet de notre rencontre, du politique au poétique, je dois vous avouer que c'est un sujet qui, dans un premier temps, m'a mise un tout petit peu dans l'embarras. D'abord, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je l'avais spontanément, j'avais pris la proposition dans l'autre sens, c'est-à-dire du poétique au politique. Et puis, je me suis dit que, de toute façon, quel que soit l'ordre dans lequel on agence ces deux mots, on était de toute façon dans des catégories dans lesquelles le poids des mots n'est pas le même, la charge des mots dans le contexte poétique et politique est sensiblement différente. Et ajouter à cela le fait que nous sommes dans un contexte de rencontre qui s'intéresse aux îles, donc ce contexte insulaire, je me suis dit que bon, jongler avec ces trois notions de l'insularité, du poétique et du politique était un peu peut-être une forme de gageure, mais pourquoi pas, c'est intéressant. Et puis après, en lisant vos textes, à tous les quatre, et en regardant un peu vos trajectoires de vie, je me suis dit que peut-être vous aviez en commun le fait d'avoir des trajectoires poétiques qui ont pu être traversées par du politique, c'est-à-dire que dans vos écritures, il a pu advenir des événements de nature politique qui ont peut-être, au fond, sensiblement modifié, fait évoluer vos écritures, qui les ont bousculées, qui les ont obligées à aller dans certaines directions que vous n'aviez peut-être pas prévues. Et donc je me suis dit, bon ça va, on va pouvoir traiter le sujet, donc tout allait bien. Je fais des petites présentations rapides, bien que la brochure soit extrêmement complète, mais enfin quand même je redis un tout petit peu qui sont les quatre auteurs. Je fais dans l'ordre alphabétique, alors Neil Bisundat qui est à ma droite. Vous êtes né en 1955 dans l'île de Trinidad, d'une famille originaire d'Inde. Vous êtes romancier et également essayiste, essayiste avec un titre « Le marché aux illusions, la méprise du multiculturalisme » qui était paru en 1995. Et en tant que romancier, vous êtes l'auteur notamment de « La clameur des ténèbres », de « Retour à Casa Quemada » et puis votre dernier roman qui vient de paraître aux éditions Phébus s'intitule « Carte postale de l'enfer ». Salim Atubou, qui se trouve tout à fait à ma gauche, là-bas. Vous êtes né en 1972 aux Comores. Vous avez publié des contes, qui ont souvent d'ailleurs été collectés à la source, c'est-à-dire aux Comores, des poèmes, des livres pour enfants, et puis des romans, parmi lesquels « Le sang de l'obéissance », qui était paru en 1996, « L'odeur du béton » en 1998, et Les démons de l'aube, le dernier en date, paru en 2006 aux éditions L'Harmattan. Jean-Luc Raharimanana, qui est à ma droite, né en 1967 dans l'île de Madagascar. Vous êtes romancier, avec notamment Rêve sous le linceul en 1998, Nour 1947 en 2001. Vous êtes également auteur de théâtre, avec notamment Le prophète et le président, et puis les cauchemars du GECO. Et votre dernier roman s'intitule « Za ». Il est paru en 2008 aux éditions Philippe Ray. Enfin, Mehmet Yachine, qui est à ma gauche, et donc qui ne parle pas le français, mais qui a son traducteur à côté de lui pour suppléer. Né en 1958 dans l'île de Chypre. Vous êtes, selon la définition que vous aimez choisir, un homme de nombreux pays. Vous êtes poète, poète turcophone, essayiste et romancier, notamment l'auteur du recueil « Soldat mort, mon amour » paru en 1984. Et puis votre premier recueil traduit en français vient juste de paraître aux éditions Bleu Autour et il s'intitule « Constantinople n'attend plus personne ». Alors pour lancer peut-être notre discussion, j'avais envie de vous proposer à tous les quatre un petit premier tour de table pour dire au fond comment se conjugue, comment s'associe ou comment se dissocie pour vous ces trois termes que sont l'insularité, le poétique et le politique. Je ne sais pas qui va vouloir commencer. avec ce tout petit programme extrêmement léger. Jean-Luc, le micro est entendu.
D'accord. Bon, voilà. Il va falloir que tu me rappelles les trois thèmes. Assez compliqué. Oui, l'insularité. Commençons avec l'insularité. Et je vais en parler tout simplement. Je vais dire tout simplement ce que ces mots soulèvent chez moi. Certain que je suis né dans une petite île aux Antilles, comme vous avez dit, en 1955, Trinidad, une île anglophone. Et j'ai vécu la vie insulaire de façon très... disons que même très jeune, j'avais envie de partir. Je n'ai jamais aimé la vie insulaire que je trouvais limitée et la vie dans une petite île ne m'offrait que très peu de possibilités pour l'avenir. Et même très jeune, j'avais envie de partir, j'avais envie de trouver une vie plus intéressante, plus riche, plus large, dans le monde plus large. En même temps, c'est certain que les premières nouvelles, les premiers romans que j'ai écrits ont été influencés par cette vie à Trinidad, qui était une petite île de avec une population d'à peu près 1 million de personnes, divisée entre les gens d'origine africaine et d'origine indienne. Et les deux communautés se détestaient. C'était un racisme presque complet entre les deux. Alors j'ai refusé, dès un très jeune âge, ce racisme, ces déchirures économiques aussi qu'on vivait dans l'île. Et je rêvais déjà à une autre vie. Alors c'est pour moi, c'est ce que soulève chez moi cette idée d'insularité et la vie insulaire. Très négatif. L'autre thème, c'était...
Notre thème.
Oui, politique. Poétique. Je dirais que surtout dans les premiers livres, cette vie de jeune homme à Trinidad a influencé certains thèmes qu'on trouve, comme je disais, dans les premières nouvelles et les premiers romans. Des thèmes politiques, c'est certain. Ce qui me fascinait, c'était les situations de conflits politiques, de conflits raciaux, qui empêchaient les individus de vivre et de faire les choix qu'ils auraient voulu faire, de se faire le genre de vie qu'ils voudraient faire. Les gens qui vivaient, qui ne contrôlaient plus leur vie. Et c'est un thème qui me fascine, qui m'a toujours fasciné, qui a commencé grâce à mes expériences à Trinidad. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait l'individu quand il se trouve dans une situation où il n'a plus de choix? Comment vivre une vie? Comment avoir ses rêves? Comment réaliser ses rêves? Alors, c'est un thème que je crois, c'est un thème politique, en fait, que j'explore dans plusieurs nouvelles et romans, d'où alors le côté poétique de la chose. Voilà, je pense que j'ai tout couvert.
Jean-Luc, est-ce que vous voulez...
Moi, sur ces trois thèmes, il y a surtout le fait, il y a la langue française, on va dire, insulaire, insularité, et même mon lien avec l'île n'est pas lié à cette langue française. Lorsqu'on va dire île ou insularité, ça ne me dit pas beaucoup de choses, sauf sur des constructions intellectuelles ou sur des théories littéraires. Et je peux tenir la route comme ça sur ces théories ou sur ces idées. Mais vraiment sur la notion même d'insularité, il faut que je revienne dans ma langue, c'est-à-dire le malgache. Et j'arrive à ce terme de nous, donc, qui veut dire île. Mais nous, à Madagascar, ce sont les petites îles à côté de Madagascar. Et donc, moi, je n'avais absolument pas l'impression de vivre sur une île. Dès qu'on me parlait d'une île, je pensais aux petites îles autour de Madagascar. Et lorsqu'il y a même une île qui s'appelle Nosy Be, et littéralement qui signifie la grande île. Et lorsqu'on parle de Madagascar, on dit la grande île tout le temps. Et je me moquais un petit peu dans ma tête en disant la grande île chez nous, c'est Nosy Be, c'est la plus grande île autour de Madagascar. Et ainsi, mon idée, c'était que il fallait que je découvre toute l'île de Madagascar. C'était ça mon insularité, c'est de parcourir l'île et surtout d'aller vers la mer. Parce que j'ai vécu dans la capitale, et dans la capitale, on ne voit pas la mer. Il faut faire 400 km d'un côté ou de l'autre pour aller voir la mer. Il faut attendre les vacances pour aller voir la mer. Et à partir du moment où je voyais la mer, j'avais vraiment cette impression d'avoir parcouru une partie de l'île. Et j'étais comme un découvreur perpétuel. Et il y avait cette idée aussi de se dire, au-delà de la mer, qu'est-ce qu'il y a ? Et donc j'avais le désir d'aller au-delà de la mer. Ce n'était pas un désir de quitter l'île, mais c'était un désir de voir qu'est-ce qu'il y a au-delà. Et d'autant plus que l'histoire de l'île fait que tous les Malgaches savent que nous venons d'ailleurs. Et le fait d'aller vers l'au-delà de l'horizon ou l'au-delà de la mer fait que c'est comme si on revient un petit peu vers un passé. Et c'était ça ce qui était intéressant. Cet au-delà de la mer peut signifier l'Inde, peut signifier l'Afrique, peut signifier l'Europe. Et donc, à la fois, c'était s'ouvrir au monde, mais redécouvrir quelque part les racines. Et donc, il y avait ce va-et-vient que je faisais toujours dans l'île. Et enfin, le fait de penser à d'autres horizons. Donc voilà un petit peu l'insularité que je vivais. Mais il y avait aussi, c'est vrai, une autre insularité plus économique. Une insularité aussi plus de frustration. Il y a le fait que économiquement, je ne pouvais pas prendre, par exemple, l'avion et puis aller à La Réunion ou aller en Afrique. Ça me frustrait énormément parce que mes désirs de découverte étaient freinés. Et il y avait une certaine colère sur justement cet isolement. Et c'est ainsi que le politique commence à entrer dans ma conscience en me disant que c'est politiquement qu'il y a des problèmes, même si économiquement on peut toujours se débrouiller pour trouver de l'argent pour aller à l'extérieur, mais là on se frotte aux politiques parce qu'il faut le visa. Et parce que il y a aussi parce que les pays riches vont dire non, vous venez chez nous rien que pour nos travaux ou autre, alors que j'avais simplement un désir de voir l'autre, et ce désir d'aller voir l'autre était politiquement jugé comme une invasion d'immigrés ou de barbares ou des choses très troublantes comme cela, et comme si l'autre n'a pas envie de vous voir, et comme si on nous dénie aussi l'envie de simplement visiter le monde ou visiter de sortir de l'île à ce moment-là. Et c'est ainsi que le politique rentre de manière assez violente dans mon écriture. Et la poésie, c'est ça, c'est ce rapport avec la mer, avec l'océan, avec les origines et tout le fantasme qu'on met sur les océans, tout le fantasme qu'on met sur les origines. Et puis aussi l'île est belle, l'île est belle, les gens sont complètement diversifiés. Il y a toute une poésie, par exemple, de visage des gens, de la couleur des gens. Et ça rentrait là. Mais en même temps, l'insularité aussi, pour moi, a donné une poésie assez particulière. Si on se dit que la poésie, c'est une manière de voir le monde, le fait d'être isolé comme cela a fait que j'ai été obligé de me débrouiller pour faire ma propre écriture. J'ai eu très peu de livres, quoique mes parents avaient beaucoup de livres, mais malgré tout, je n'ai pas eu accès à tous les livres que je voulais. Et ça m'a obligé comme cela à se construire une poésie très personnelle. Je ne savais pas sur le coup. Mais lorsque j'ai avancé dans l'écriture, quand je me suis confronté avec d'autres poètes, c'est là que je me suis rendu compte que ce manque a fait que j'ai dû inventer autre chose.
Pour vous, Mehmet Yassine, comment s'est faite l'articulation de ces deux termes, du poétique et du politique, dans le contexte de votre insularité à vous, c'est-à-dire dans le contexte de Chypre ?
First of all, in Cyprus, we know from beginning that we had to live in some point the island. We had to go to study in Britain or Italy or Turkey or Greece or France. So island is not only isolation for us, but the sea, perhaps more important, the island itself.
Et donc tout le monde sait, tous les ressortissants de Chypre savent qu'à un moment donné, il va falloir partir, ne serait-ce que pour étudier, pour se rendre au Royaume-Uni, pour se rendre en Italie, pour se rendre en Turquie, en Grèce ou en France pour étudier. Et d'une certaine façon, par définition, une île, c'est un point d'isolement et, qui fait porter le regard vers les mers.
In Cyprus, we have three languages. Which we create contemporary literature, Turkish, Greek, and English. And we have multiple identity. You know, Cypriots consider themselves all together as Cypriot, but at the same time, a Greek identity, Turkish identity, and of course, recently, we are in Europe. So being in Europe is give another dynamic, you know. You are as if a big touristic hotel in a hottest spot in the Mediterranean Sea for Europe. But in general, I have to talk a little bit more about Mediterranean because in an island, being an island in Mediterranean Sea, I think is different from the different experience.
Donc, à Chypre, il existe trois langues, le turc, le grec et l'anglais, qui sont pratiquées justement dans la sphère littéraire. Et quand on songe à l'identité, les composants de l'identité des ressortissants de Chypre, je pense que les gens se considèrent chypriotes, mais en même temps, il y a aussi une dimension grecque, une dimension turque, et de fraîche date, n'est-ce pas, suite à l'adhésion de l'île à l'Union européenne, nous avons maintenant agrégé à cet ensemble une dimension européenne. Donc, si vous voulez, ça crée une nouvelle dynamique. Et évidemment, l'aspect également que c'est une île en Méditerranée et à ce titre les Européens vont se rendre en Méditerranée parce que enfin, pour passer un séjour dans les résidences hôtelières. Mais bon, ça m'amène à ce que c'est, n'est-ce pas, une île en Méditerranée et voici ce que c'est de ça que je souhaiterais parler maintenant.
Even when they try to create a kind of an islander's identity, Cypriot islander's identity, they have to teach lots of different cultures which invaded Cyprus in different times of the history. And matter in fact, we have Armenians, Maronites, Lebanese. Still we have a small community of Italians and Latins. In general, we call them Latin. And some other communities appear after the Eastern European bloc integrate Europe, Slavic communities. So being islander, you have to observe all neighboring countries, cultures, and civilization. In that sense, we have to learn Mediterranean culture and history in order to even create an isolated, you know, kind of minor national identity.
Donc en fait, voilà, donc forger une identité en tant qu'insulaire, Bon, j'ai passé en vue les composants principales de l'identité chypriote, mais j'aurais pu tout aussi facilement mentionner d'autres cultures, sachant que Chypre, c'est à la croisée de chemin, parce que la ligne s'est vue traversée par de multiples civilisations, et donc, laissant à chaque fois un résidu, une communauté résidue. Autrement dit, nous avons des Arméniens, nous avons également des Maronites, des Libanais, des Italiens, que nous nommons des Latins. Nous avons également des gens issus l'ancien bloc soviétique, les anciens pays de l'Europe de l'Est. Et donc, je pense qu'à titre d'insulaire, nous portons notre regard sur la Méditerranée, enfin nous, en tant que Chypriotes, et donc il faut que nous nous mettions dans le creuset des civilisations méditerranéennes, la culture, l'histoire de cette mer, et avant même de concevoir en quoi nous nous distinguons, nous autres Chypriotes, des autres civilisations présentes dans cette zone.
Well, this kind of history creates a quite chaotic political, unstable political life, as you can imagine, as you can observe in recent modern history of Cyprus, conflicts continuing, and also the other bigger powers, which we call mainlands, always make intervention to Cyprus. Well, this is one aspect. So Cypriots are powerless in a way to determine their history as an islander because it's small. But when they have a chance to determine, sometimes, very rarely, when they took chance, they did even worse. Islanders are not very open-minded people. Like, it's enough to remember what Ireland did to James Joyce, the rules are very strict. They are not open mind. So sea is more important than island for me.
Donc voilà, donc forger une identité dans ce contexte historique. Je pense que ça m'amène justement à la sphère politique. Vous savez peut-être, sûrement, j'imagine que le contexte politique qui règne en Chypre actuellement est loin d'être stable. On passe de conflit en conflit en conflit. Et cela se voit exacerbé par le fait que le continent nous envoie toujours, s'ingère dans les activités internes et propres à Chypre. Et donc, face à ces ingérences, je pense que les ressortissants de l'île se sentent démunis quand ils souhaitent forger leur propre identité, leur propre histoire. Alors, très très rarement, quand cela est possible, de saisir l'occasion de forger eux-mêmes leur histoire et leur identité, je pense que finalement, ils font pire que d'autres personnes l'avaient fait à leur place. Et ça m'amène à dire que, à mon sens, à tout le moins, les insulaires ne sont guère ouverts sur le monde externe. Et j'en prends pour exemple l'Irlande. Regardez ce que l'Irlande a fait à James Joyce, a fait souffrir à celui-ci. Les insulaires aiment bien se borner, se conformer aux règles. Et je pense que voilà, il faut prendre cela en considération. Et ça me fait me dire que, au contraire de l'île, je préfère porter mon regard justement sur l'océan.
Salim Atubou, jusqu'à présent, si on peut pas résumer, mais j'ai entendu que peut-être sur le versant poétique de l'insularité, il y a cette mer comme horizon. Et sur le versant politique, il y a jusqu'à présent, dans tout ce qu'on a entendu dans les trois témoignages, des tensions, des conflits, des malaises. Votre expérience à vous, de Comorien, elle conjugue aussi le rapport entre politique et poétique sur ce rapport-là.
Oui, en fait, moi quand j'étais enfant, la question de l'insularité, on ne se la posait pas. Vraiment pas du tout. C'est-à-dire que quand on disait les Comores, les îles Comores, en Comorien, c'est Massiwaya Comore. Mais quand on On peut aujourd'hui demander à des Comoriens, Massiwa, ça veut dire quoi? On ne pourra jamais faire, en dehors de ceux qui ont été à l'école. Pour nous, Massiwa, ça fait partie intégrante en fait, du nom des Comores. Donc, ça mène à dire que de parler d'insularité, on ne savait pas qu'on était insulaire. Voilà, c'est ce que je voulais dire quand on était enfant. Moi, je me souviens quand j'étais enfant aux Comores, on allait au bord de la mer, on regardait. On voyait la mer qui s'arrêtait là où s'arrêtait le regard. Et puis on voyait ce ciel qui... on avait l'impression que le ciel tombait et couvrait notre espace. Donc en fait, nous étions la terre, nous étions le monde. Donc au-delà, on se posait pas du tout des questions. Et d'ailleurs, on avait très peur. Et quand on voyait un avion qui passe, on avait l'impression que l'avion perçait le ciel pour aller dans quelque part, un autre monde. Donc voilà, donc on ne se posait pas cette question de... Et contrairement pardon, à ce que disait Neil, moi, personnellement, je ne voulais pas partir. Je m'accrochais vraiment à mon île. D'ailleurs, on avait peur de partir. Quand on disait, quand on faisait une bêtise, on nous disait, tu iras au-delà du ciel, en fait. Donc, ça veut dire qu'on va te faire partir. Et on avait peur de faire des bêtises par rapport à ça. Et comme c'est tellement petit, ces îles sont tellement petites, la politique, forcément, va rythmer notre vie quotidienne. Quand le président tousse, nous savons tous que le président a toussé. Et donc, du coup, on a une conscience politique dès le plus jeune âge. Juste une anecdote, j'étais parti aux Comores avec mon fils qui a aujourd'hui 12 ans, mais là, il avait 11 ans. Mais il en avait vraiment marre parce que quand il sortait, tous les enfants parlaient d'Azali, le colonel qui était président. Et donc, ils venaient me voir, ils me disaient, papa, j'en ai marre, ils me parlent tous de politique. Alors qu'ils ont 11 ans, donc cette conscience politique a toujours été là. Et moi, dans mon expérience, ma grand-mère, qui était une très grande conteuse, se servait en fait du conte pour parler de la politique. Donc, quand quelque chose n'allait pas, pour critiquer par exemple le pouvoir, elle va organiser des veillées et puis elle va parler de la politique, mais à partir du conte. Elle réglait les comptes à partir du conte, quoi, avec le pouvoir. Donc, forcément, ça, c'est la poésie orale, etc. Donc, la littérature écrite comorienne, qui est très jeune, le premier roman est paru en 1884, pas 1884, mais 1984. Et le premier roman d'expression française, c'est La République des Imberbes. C'est à partir de l'histoire d'Ali Soali de 1975-1978 et que l'auteur, le premier romancier comorien, est parti de cette politique-là pour faire un roman. Donc la littérature comorienne est née forcément à partir de ce thème d'aujourd'hui, de la politique. Bon. Du coup, tous les écrivains qui suivent donc, vont forcément écrire des livres qui ont toujours un rapport avec la politique.
Quand on lit vos textes à tous les quatre et qu'on se demande en fond ce qui vous relie, ce qui vous rattache et ce qui vous réunit, au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que la question de la langue, la présence de la langue au cœur de vos romans et de vos œuvres, qui importe énormément, est probablement un des liens les plus forts. Je veux dire que quand on lit le roman de Jean-Luc Harimanaza avec cette inventivité verbale absolument inouïe, quand on lit votre dernier roman, Salim, Les démons de l'aube, avec un personnage qui dit lui-même qu'il parle un français pourri, quand on lit Mehmet Yashin dans Constantinople, n'attend plus personne, que vous parlez d'une existence, la vôtre, qui est une existence traduite, c'est-à-dire une existence qui se passe sans cesse entre différentes langues. Et lorsque l'on sait, Neil Bissoundat, que chez vous, la question de l'identité, et donc à l'intérieur de la question de l'identité, la question de la langue comme outil de formulation identitaire importe énormément, finalement, on se dit que tout ça vous relie beaucoup. Et du coup, j'ai peut-être envie qu'on lise des tout petits passages, avant de poursuivre la discussion, qu'on lise des petits passages de vos œuvres respectives pour les entendre. C'est très important de les entendre. Et puis, on continuera après ces lectures de textes. Donc, je vous propose de faire des lectures pas trop longues pour qu'on puisse vous entendre tous les quatre et que ça ne soit pas une durée. Jean-Luc, si vous voulez commencer à lire un petit passage de Za, donc votre dernier roman.
Oui, mais je n'écris pas toujours comme ça. Hein.
Vous avez l'air de vous en défendre.
Non, parce que oui, avant de le lire, c'est vrai que la question de la langue est importante, puisque une île, il y a cette idée comme quoi une île est déserte, et forcément une île était d'abord déserte, et il y a des gens qui sont venus là, et de tous les horizons, et par tous les courants marins, je veux dire. Et ils ont apporté chacun leur langue. Et forcément, l'île est aussi une naissance de langue, d'une langue particulière. Le créole le prouve très, très, très, très bien, le malgache aussi. Et c'est là où on sent très, très vite les apports des différentes langues du monde. Et c'est cette construction de la langue qui fait qu'on a aussi une construction d'identité. Donc moi, comme l'histoire est passée par là aussi, et comme l'histoire sur Madagascar a voulu étouffer la langue malgache, j'ai hérité de cette langue française. Et cette langue française essaye de nous nommer, c'est-à-dire de dire, par exemple, dans nos cours d'histoire, on commence toujours par dire que les Portugais ont découvert Madagascar. Et bon, d'accord. Donc on a été découvert, comme si avant on n'existait pas. Hein? Comme si eux qui sont venus, comme si on ne les a pas découverts non plus. Hein? Et il y a cette idée que à partir du moment où l'Occident nous a découverts, ce n'est que là qu'on existait. Et ce n'est qu'avec la langue française qu'on existait. Et économiquement aussi, et politiquement aussi, en prenant la langue française, on devenait plus important dans l'île même et pour les autres terres. Et donc, moi, écrivant en français et ayant eu quelques considérations des critiques, on me dit, vous parlez très bien français, félicitations. Mais ça me gêne, puisque justement, ça renforce cette idée que j'ai été découvert et qu'en parlant la langue de l'autre, eh bien, je suis encore mieux découvert, vous voyez. Et c'est pour ça que je reviens sur... que j'ai pris cette histoire de Za, et si je parle une langue française que je découvre moi-même et que je fais découvrir aux autres, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est la démarche de cette île. Mais dans les autres, au début de mon écriture, enfin au début de mes... lorsque j'ai commencé à y écrire, j'ai eu cette obsession d'écrire une très belle langue. Peut-être qu'il fallait passer par là pour écrire une langue un peu plus A. Donc je voulais ça.
C'est le début du roman.
Oui. C'est le chapitre 1, mais il y a une petite introduction que Rodolphe, qui est parmi nous, un comédien, lit très bien, donc je n'ose pas le lire devant lui. Non, je rigole. Mais j'ai pris ce passage-là. Chapitre 1. Za, submergé, n'arrive plus à maîtriser sa langue, pense à son fils emporté par le fleuve de cellophane. Il rit en repensant à ses dents éclatées. Za voit bien qu'ici-bas, Za n'a plus rien à faire. Même d'étendre ma langue comme caméléon sur mot voltant, Za n'arrive plus à perpétrer. Vous, en compréhension, Za ne m'attrape même pas victoire en la grosse tête à travers ma joie de vanité. Vous en décompréhension, Za, dans les abysses, ne déprime même pas mon âme, mon être, ma douleur, ma souffrance, ô peine des ennemis incomprisés. Ça ne bouge plus dans mon cœur. Ça ne me tumulte plus dans l'ire des ans inécoutés. Ça a eu ma dose. Ça parlait avant comme dictionnaire cyclopédique, bon phrasé, bonne poétique, et vous applaudissez, vous vibrationnez. Ça me courbait avant de repenser à mon cahier d'un retour à ma langue natale. Ça me disait que bien sera de retourner à tout ça. Isa rua urwunjadzimteni teluefacha lefa def kantan nulo. Mais plus ça y pense, plus ça en désespère. Ma langue aza est à reconstruire. Ma langue aza par personne n'est dite, santé, lue ou sanscrite. Ça a tout à réinventer. Mais la flamme de la flemme dresse étendard dans mon âme. Et ça n'a plus le courage de m'y tremper jusqu'aux couilles. Ça n'arrive plus à bien écrire. Ça n'arrive plus à être ou ne pas être. Ça a mal à la tête. Ça a dit comme ça, flamme de la flemme, mais ça repense à tout ça et me dit, basta, sous-fifre que tu es, ça, ça suffit. Tu n'as plus rien à faire. Tu as perdu ta maison, ça suffit. Tu as perdu ta femme, ça suffit. Tu as perdu ton enfant, ça suffit. Tu as perdu tes vêtements, ça suffit. Sur le bord de ton fleuve, tu regardes ces maisons qu'ils ont construites. Banque mondiale, c'est banqué par là. Sinistre, c'est administré par là. Créé ministre par-ci, ménestre par-là. Ministre des catastrophes, viens là que ça te baise. Sinistre dans ta face tamponnée de dons internationaux. Voici les diplomites qui te racontent la solidarité de tous les peuples de leur terre. Voici les brailleurs de fond d'Olaroïde qui te hisseront hors de ton profond trou de désencordé pour t'installer dans Modern Living and Home Sweet Home. À vous, ça, tu as envie d'y habiter. Tu crèves d'envie d'y habiter. Tu habites les rails sur les cailloux graissés de chemin de fer. Graissé maintenant par la merde de tous ces bidonvilliers, de leurs a à tous ces humanitaires que plus aucun train n'y passe, dis leurs a que tous les wagons et autres voitures locomotivées ne restent que les arrière-trains de ces scieurs en sueur, l'odeur pestilentielle de leur misérable. Tu habites a le long de ce fleuve de cellophane, tu l'appelles comme ça. Fleuve de cellophane, fleuve poubelle qui s'arrive sassé en plastique, bouteille, tôle rouillée irrécupérable, cadavre de sien abattu quelque part dans la ville et qui dérive ici, bloqué par ses planches pourries formant barrages et digues de fortune, entrailles ouvertes au ciel, tu pourras, osa, récupérer ses entrailles et les substituer aux saucisses du bousset, ni vu, ni connu. Mais ça ne marchera pas. Le bousset, ce bousset connaît trop les entrailles de sien. Fleuve de meurtre, meurtre offerte par tous les trous du monde. Maison, maison que tu n'as pas. Il n'y a plus de place ici. Tu préfères rôder de cet autre côté, de si missionnaire, de la type mère thérésique. Tu dors aux portes de cette cité que d'autres comme toi, pareil, presque ont construite. Ils étaient eux avant dans les Dessars, presque comme toi. Ils habitaient sous la mer, presque comme toi. Ils habitaient sous les poubelles qu'ils avaient creusées, presque comme toi. Et il était arrivé. Tu n'as pas voulu le regarder, saint et missionnaire. Il les avait sortis de là, tu n'as pas voulu. Il leur a dit encore. Vous pouvez, vous devez vivre comme des hommes, construire vos propres maisons par vos propres mains. Vous êtes capables, vous pouvez. Tu regardes ces maisons, ça. Tu as envie d'y habiter, mais tu ne pries pas. Tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie de croire. Croire à son Dieu qui a laissé faire. Tu ne peux pas comme ça quitter ton fleuve et ton fils qui s'y était noyé. Ton fils que tu n'avais retrouvé qu'au bout de 2 semaines, la bousse pleine de plastique, le ventre gonflé de l'eau du fleuve, enflure qui ressemblait tant à celle de tous ces siens dérivants, fissurés, fleuve de cellophane, seul et unique linceul pour nous autres, d'ici, de ce fleuve, Zahari, Zana que ça.
Merci beaucoup pour cette lecture où je crois que indéniablement on entend et le poétique et le politique dans cette langue très, très particulière. Ce serait peut-être intéressant, Salim, de lire, parce que moi je vois un lien entre vos deux façons de... Chez vous, c'est le français pourri, hein, c'est comme ça que votre personnage l'appelle. Ce serait peut-être intéressant de lire à votre tour un petit extrait. Donc, des démons de l'aube.
Oui, des démons de l'aube. En fait, je veux juste préciser qu'aux Comores, les professeurs peuvent accuser à peu près 23 mois d'arriéré de salaire. Donc, on a forcément ce qu'on appelle des années blanches, quoi. Donc, parfois, les enfants peuvent faire 6 mois sans aller à l'école, quoi. Parce que bon, il y a souvent des grèves qui sont justifiées par ailleurs. Et donc, du coup, les enfants, un jour, ils ont pris le pouvoir, pas pour changer le pays, il ne faut pas être idéaliste, mais pour manger eux aussi, comme ils disent. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de raison que c'est toujours les grands qui détournent l'argent, eux aussi peuvent détourner. Et donc, c'est un jeune garçon donc, qui raconte. Dans Moroni, il y a des militaires armés, partout. Mais ces militaires, c'est enfants. Avec les uniformes qui leur vont vraiment grands, on les remarque bien. Quand on est arrivé devant la maison de Jolouna, j'ai trouvé beaucoup de gens là et j'ai demandé ce qui se passe même. On m'a dit que c'est père de Jolouna qui est mort. J'ai couru et j'ai appelé Jolouna. Jolouna est venue et je l'ai entourée avec mes bras. Elle a posé la tête contre ma poitrine et elle a pleuré, pleuré, pleuré et vraiment pleuré. Et puis elle m'a dit que son papa là, c'était pas vrai qu'il se reposait. Mais il avait pris nos cordes et il s'est pendu. Tout ça, c'est à cause d'humiliation qu'il a eue même parce qu'il était endetté. Jolouna m'a dit comme ça que les gens disaient que c'est Dieu qui a voulu. Mais ce n'est pas vrai parce que si l'État payait les gens, son papa ne serait pas endetté. Il ne serait pas humilié et il ne se serait pas suicidé. Il aurait gardé dignité même. J'ai hoché la tête. Les gens ont pleuré très fort. Quand on a enlevé le cercueil du papa de Jolouna, j'ai pensé à mon papa, à ma maman, à ma petite sœur, à mon petit frère. Ils n'ont pas eu cercueil, eux. Ils n'ont pas eu tombe, parce qu'ils sont devenus cendres dans la maison brûlée à Caltex même. Jolouna a voulu courir derrière les hommes qui portaient le cercueil de son papa. Je l'ai retenue. Elle criait très fort. J'ai vu la maman de Jolouna aussi qui pleurait. Et elle disait des choses que j'ai retenues, mais il faut traduire. Voici ce qu'elle disait, la maman de Jolouna. Ye wafa ou aruma yentsinu, qu'ils meurent ceux qui ont gouverné ce pays. Wanulilia ye wahangu, ceux qui ont tué homme au mien. Nge Jolouna nanivei bonde, que Jolouna porte la cuirasse. Ya ke jatosha na bantam, qu'elle soit comme Tosha quand il a vu bantam. Jeheli nulo hama faham wa atumani, tout comme je suis comme faham atumani. Ve yabeha ye hirizia amani, quand on lui a dérobé son talisman de paix. Jolouna rasalamu yarenge jambaba. Jolouna dit le bonjour en public comme un homme. Amba yemafe wafi. Décrète la mort de Selera ou Wambabaha, ceux qui ont tué ton père. Quand Jolouna a entendu parole de sa maman, elle a arrêté de pleurer et elle est montée dans ma voiture même. Je suis monté aussi. Les motos ont démarré avec sirène. Fidèle à son travail de chauffeur là, a aussi démarré. Voilà, c'est ce qu'il appelle lui un français pourri. Parce qu'il dit, ben, on n'a pas eu l'école, donc forcément, on n'a pas appris à parler français.
Mehmet Yachim, je crois que vous avez fait une sélection de 4 poèmes, hein, c'est bien cela, que vous allez nous lire en turc et que nous allons ensuite entendre en, en traduction française.
No, actually, she's going to read the first French. Then
le contraire, d'abord le français et puis vous lirez en turc ensuite.
Yeah.
D'accord.
Now, but we choose three poems because we don't have much time.
Nous avons choisi trois poèmes en définitive et non pas quatre parce que le
d'accord.
Temps.
D'accord.
One first one will be from my very first poetry collection, which published in 1980s.
Donc le premier poème est issu de mon premier recueil qui date des années 80.
And the other one is another poetry collection which published in 1990s.
Et le deuxième est issu de notre recueil qui date des années 90.
And the third one we are going to read later, which was published in 2000s.
Et le troisième poème, nous allons différer la lecture de ce poème. Et ce poème a été édité au début des années 2000, dans l'an 2000.
Poems translated by Alain Mascaro.
Alain Mascaro a assuré la traduction de ces poèmes.
Sans qu'on me le dise, j'ai compris. Grand-père est un olivier. Les bras noueux couverts d'écorces épaisses, le visage clair, le regard noir. Il me reconnaît même de loin, il agite les branches en bruissant. Grand-père l'a planté là avant de mourir. Tronc si vigoureux, senteur si attirante, sourire immuable du feuillage, cet arbre est mon grand-père. Je l'ai compris sans qu'on me le dise. Avec les feuilles d'argent, il brûle de l'encens pour moi, cher grand-père olivier de douleur.
Acılı zeytin ağacı. Kimse söylemeden anladım, dedemdir zeytin ağacı. Kolları buruşmuş sert derilerle kaplı, aydınlık yüzlü kara bakışlı. Beni tanır uzaktan görse bile, dallarını sallayıp hışır hışır konuşur. Dedem dikmiş onu ölmeden, öyle güçlü gövdesi, öyle güzel kokusu, yapracından eksilmez gülücüğü. Kimse söylemeden anladım dedem olduğunu. Bana tütsü yakar gümüş yapraklarıyla, sevgili dedem, acılı zeytin ağacı.
Je me parlais en moi-même pour qu'on ne m'entende pas, et qui me voyait sentait de la sagesse dans mon silence. Dissimuler était nécessaire car le turc était dangereux, le grec étant quant à lui absolument interdit. Les grands qui voulaient me sauver me guettaient comme autant de mitraillettes. En ces temps-là, d'ailleurs, chacun était un engagé volontaire. Et, semblable à un mince coupe-papier glissé dans un livre de classe, l'anglais se dressait au milieu, comme une langue qui se parlait dans des situations obligatoires, surtout avec les Grecs. Bien des fois, je ne savais même pas dans quelle langue pleurer. J'ai mené une existence non pas étrangère, mais traduite. Ma langue maternelle était autre, ma patrie autre, quant à moi, tout autre. Durant ces jours de couvre-feu, j'avais déjà compris que je ne serais le poète d'aucun pays. J'étais minoritaire et « liberté » était un mot qui n'avait son entrée dans aucun dictionnaire national. En définitive, trois langues se sont mêlées dans mes poèmes. Ni les Turcs n'ont pu ressentir ce que j'éprouvais, ni les Grecs, ni d'ailleurs les autres. Mais je ne les blâme pas. C'était un temps de guerre.
Savaş zamanı. İçimden konuşurdum işitilmesin diye. Gören de bilgelik sezerdi sessizliğimden. Gizlenmesi gerekirdi çünkü tehlikeliydi Türkçe. Elence desen kesin kes yasak. Tetikte beklerdi birer makineli tüfek gibi beni kurtarmak isteyen büyükler. Zaten o zamanlar gönüllü birer askerdi herkes. Ve ders kitaplarının ince bıçak kaçacağına benzeyen İngilizce. Ortada dururdu öyle. Zorunlu durumlarda konuşulacak bir dil olarak. Özellikle de elenler ile. Hangi dilde ağlayacağımı bile şaşırırdım çoğu kez. Yabancı da değil, çeviri bir hayattı yaşadım. Ana dilim başkaydı. Ana vatanım başka. Ben derseniz bambaşka. Daha o karartma günlerinden görünmüştü. Hiçbir ülkenin şairi olamayacağım. Çünkü azınlıktım. Ve özgürlük hiçbir ulusal sözlüğe sığamayan bir sözcüktü. En sonunda üç dil birbirine girdi şiirlerimde. Ne Türkler işitebildi içimden geçenleri, ne elenler, ne de öbürleri. Ama kınamıyorum onları. Savaş zamanıydı.
Merci. Neil Bisundat, cela ne s'entend pas depuis le début de la conversation puisque vous parlez le français, mais vous écrivez en anglais. Alors c'est en anglais, bien sûr, que vous allez nous lire un extrait.
Avec plaisir.
Dans cet extrait, le narrateur est un des personnages principaux du roman. Il s'appelle Alec. Ce n'est pas son vrai nom. C'est quelqu'un qui, assez jeune, s'est donné une fausse identité qui, à la longue, est devenue sa seule et vraie identité. Et dans cet extrait, il parle de ce que c'est d'avoir, de se donner une autre identité, de devenir son rôle. Et il nous parle aussi de l'autre personnage principal de ce roman, une jeune femme qui s'appelle Sumitra, d'origine indienne, dont les parents sont immigrants au Canada, et avec qui il entretient une relation assez sexuelle, assez érotique. People like me, and almost everyone's like me, although hardly anyone wants to acknowledge it, come to inhabit our roles completely. We are our roles. Wasn't it Shakespeare who wrote, "All the world's a stage, and all the men and women merely players"? Or something like that. Smart high school lit classes go back a ways. Smart guy, that will. Psychobabble's always jabbering at us that we must strive to be real, genuine, true to ourselves. Centuries ago, Shakespeare knew that was meaningless crap. These selves of ours we're supposed to be true to are constructions, the roles we play, roles that are either given to us or that we invent ourselves. More useful advice would be, be true to the role you're stuck with. Most people would recoil from that thought, but take impulsiveness, for example. Kids are naturally impulsive. They're born that way. Yet parents spend years drumming it into them that that's a bad thing. Think before you act. Don't you dare jump into that mud puddle, even if you're dying to. And the moment you hold back, the moment you step around the mud puddle, you're not being true to yourself. You're assuming a role and the personality that goes with it. The good little kid who shoves his true self into some dark corner. The role I've written for myself is perhaps more complex than most. Nobody imposed it on me, after all. And I didn't simply fall into it either. I've designed it by playing with people's stereotypes, by using their prejudices against them and to my advantage. I never really expected things to go as far as they have. Who would have thought that that moment of teenaged frustration leading to that frankly outrageous resolution would provoke material success and consequently shape a whole life? Who would have thought that that moment would end up trapping me? How could I have known I'd still be playing this game so many years later? But there it is. I am enmeshed and have become my role, like all of us. The role is at the heart of the mystery that Sue is reaching for. She wanted to know who I am, but who I am is what I've constructed. Ungraspable and enigmatic, fluid even to myself, and nothing, nothing is more precious to me. When I finished my spiel of artsy babble, Sue took a gulp of wine, stretched and said, "So how's the car coming along?" "The Chevy? It's done," I said. "He's been restoring a car." "Really?" she said. "When'd you find the time?" "Oh, a bit here, a bit there. It's the only way you can do something like that." She asked to see it, and I groggily agreed. We'd tried to make love one last time, and it hadn't worked. I'd pleaded fatigue, conceding that she'd won the bet as to who would wear who out. But the truth is that this new twist was eating away at me. Is there anything more nerve-wracking than being without choice? We made our way down through the basement to the garage. The fluorescent tubes flickered on, and I carefully withdrew the car cover to reveal the Chevy, its green body and black running boards glistening fresh in the sunlight, in the light. Sue appeared mesmerized. She stepped close to it, gingerly ran her fingertips along the hood, onto the chrome of the radiator, around the chrome and glass of the headlights. She walked all the way around, peering inside at the reupholstered seats, putting a hand through the open window to grasp the steering wheel. She said, "Does it work?" "Like new," I said. "The entire engine's been cleaned, greased, new parts put in." "Let's go for a spin," she said. "Can't just yet," I replied. "Before I can take her out on the street, she has to be certified, inspected, registered, insured. If the cops stopped us..." "Let's go anyway," she said. "Sorry, Sue, that'd be a reckless thing to do." "This entire weekend is reckless, Alec. And what's coming next, that's reckless too. I'm willing to chance it." "Slow down, Sue. I could lose the car, not to mention my license and God knows what else." She leaned her back against the car and slipped the strap of her dress down her left arm, exposing her left breast. "Well," she said, I'm in the mood for a ride. If not in it, then on it."
Les gens comme moi, et presque tout le monde est comme moi, sans toutefois l'admettre, finissent par ne faire qu'un avec leur rôle. Nous sommes le rôle que nous jouons. N'est-ce pas Shakespeare qui a écrit « Le monde entier est un théâtre et les hommes et les femmes ne sont que des acteurs » ou quelque chose du genre. Vague souvenir des cours de littérature du secondaire. Pas bête ce William. Les psys, dans leur jargon, nous répètent jusqu'à plus soif qu'il faut être vrai, authentique, fidèle à soi. Il y a quelques siècles déjà, Shakespeare avait compris que c'était de la bouillie pour les chats. Les moi auxquels nous sommes censés nous conformer sont de simples constructions. Des rôles que nous jouons, des rôles qui nous sont confiés ou que nous inventons pour nous-mêmes. Le conseil suivant serait beaucoup plus utile. Soyez fidèles au rôle qui vous échoit. Devant pareille idée, la plupart des gens se récrieraient. Mais prenez la spontanéité, par exemple. Les enfants sont naturellement spontanés, ils naissent ainsi. Et pourtant, leurs parents leur répètent que c'est mauvais. Pense avant d'agir. Ne saute pas dans cette flaque de boue. Mais vous en mourrez d'envie. À partir du moment où vous vous retenez, où vous contournez la flaque, vous dérogez à votre nature. Vous incarnez un rôle et prenez la personnalité qui l'accompagne, celui du gentil petit garçon qui remise son vrai moi dans quelque obscur recoin. Le rôle que je me suis créé est sans doute plus complexe que la moyenne. Après tout, personne ne me l'a imposé. Il ne m'est pas non plus tombé dessus par hasard. J'ai exploité les stéréotypes des autres, retourné leurs préjugés contre eux et à mon avantage. Jamais je n'aurais pensé que les choses iraient si loin. Qui aurait cru qu'un moment de frustration adolescente ayant conduit à une solution aussi outrancière se traduirait un jour par une réussite matérielle spectaculaire qui, par voie de conséquence, déterminerait ma vie tout entière ? Qui aurait cru que ce moment finirait par me prendre au piège ? Qui aurait cru que, des années plus tard, je jouerais encore le même jeu ? Et pourtant, je suis empêtrée. Comme chacun de nous, je suis devenue le rôle que je joue. Ce rôle est à présent au cœur du mystère que Sue cherche à élucider. Elle veut savoir qui je suis, mais je suis telle que je me suis construit, insaisissable et énigmatique, fluide, même à mes propres yeux. Et rien, absolument rien, n'est pour moi plus précieux. Une fois terminé mon baratin pseudo-artistique, Sue a avalé une gorgée de vin, s'est étirée et a demandé « Au fait, la voiture, ça avance ?»« La Chevy ?» j'ai demandé. « Oui, il est en train de restaurer une voiture. La Chevy ?» J'ai terminé. « Ah bon, où as-tu trouvé le temps ?»« Oh, tu sais ce que c'est, quelques minutes ici et là, c'est la seule façon d'y arriver. » Elle a demandé à la voir et, vacillant un peu, j'ai accepté. Nous avons tenté de faire l'amour une dernière fois, mais ça n'a pas marché. J'ai invoqué la fatigue, admis que c'était elle qui m'avait vidée et non le contraire, mais la vérité, c'est que la nouvelle donne me rongeait. Y a-t-il pire épreuve pour les nerfs que d'être privé de choix ? Nous nous sommes habillés et nous avons gagné le garage en passant par le sous-sol. Les tubes au néon ont trembloté et avec prudence, j'ai tiré sur la bâche pour révéler la cheville dont la carrosserie verte et les marchepieds noirs ont jeté un éclat frais. Sue semblait hypnotisée. Elle s'est approchée et a tout doucement fait glisser le bout de ses doigts sur le capot, le chrome du radiateur, le chrome et le vert des phares. Elle a effectué un tour complet, jeté un coup d'œil sur les sièges nouvellement rembourrés, passé sa main par la vitre baissée pour toucher le volant. « Elle fonctionne ? » a-t-elle demandé. « Comme une neuve. Le moteur a été nettoyé et huilé, les pièces défectueuses ont été remplacées. « Allons faire un tour » a-t-elle lancé. « Impossible. Avant, il doit être inspecté, déclaré conforme, immatriculé et assuré. Si des policiers nous interceptaient, allons-y quand même. Pas question, ce serait imprudent. Le week-end tout entier a été imprudent, Alec, et la suite le sera aussi. Je suis prête. Pas si vite, Sue. Je risquerais de perdre la voiture, sans parler de mon permis de conduire et de Dieu sait quoi d'autre. » Elle s'est appuyée contre la voiture et a fait tomber la bretelle gauche de sa robe, découvrant son sein. « En tout cas, moi, je suis prête pour une chevauchée dans ta bagnole ou alors sur elle. »
Merci beaucoup. C'est une belle expérience d'entendre tous ces textes les uns après les autres et de surcroît avec des langues différentes. Moi, j'avais envie de vous poser à tous les quatre une question, parce que dans l'intitulé de notre rencontre, du politique au poétique, il y a l'idée d'un mouvement, d'un passage qui se fait de l'un à l'autre. Et j'aimerais savoir comment, concrètement, dans vos expériences de poète, de romancier ou d'essayiste, ce passage-là se fait, si jamais il existe. C'est-à-dire, comment éventuellement du politique génère du poétique ? Est-ce que c'est un passage qui se fait de façon évidente, brutale, soudaine, lente et souterraine ? Enfin bref, comment ça marche finalement, ce passage de l'un à l'autre ?
D'accord. Dans mon cas, je suis un romancier parce que je me pose beaucoup de questions. Je suis romancier parce que je suis très curieux. J'ai l'impression que les personnages qui me viennent à l'esprit arrivent à un moment donné pour répondre à mes interrogations personnelles. Et les interrogations telles que, par exemple, j'écoute les nouvelles. Je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans le monde. J'écoute les nouvelles, je lis énormément, je parle avec les gens. Et la question que je me pose, que le romancier que je suis me pose, c'est: qu'est-ce que c'est de vivre une telle vie? Qu'est-ce que c'est de se trouver dans une telle situation? Une situation que moi, je ne vis pas, une situation de guerre, situation de conflit, situation de terrorisme, etc. Et j'ai l'impression qu'à la longue, un personnage arrive et m'aide à vivre de telles situations dans le roman que j'écris. Je suis un romancier qui est toujours à l'écoute de ces personnages. Je n'impose rien. Je n'ai pas de réponse à donner. En tant que romancier, je n'ai rien à dire. J'ai des questions que je me pose. J'ai des personnages qui viennent me faire vivre une expérience lors de l'écriture du roman. Et je crois que c'est de cette façon-là que le passage se fait de la politique, parce que bien sûr, que ce qui me fascine, c'est l'effet de la politique, une politique de violence souvent, sur la vie de l'individu. Et puis, en me posant ces questions, mon imaginaire me mène vers un roman, vers le langage dont j'ai besoin pour décrire la vie du personnage qui existe dans ma tête, qui se déroule dans ma tête. Et en fin de compte, lorsque j'écris le roman, l'important, ce n'est pas la question politique. L'important, c'est la vie de l'individu. C'est le personnage qui s'exprime, le personnage qui me dévoile sa vie. Alors, le personnel devient beaucoup plus important que les questions politiques, même si ce sont les questions politiques qui ont déclenché le processus.
Salim ?
Est-ce que l'impact des violences du monde, chez vous aussi, est le point de démarrage, de départ d'un processus d'écriture, même si, dans l'expérience de Neil, il dit que finalement, c'est la vie des personnages qui remporte et qui est la plus forte ?
Nous, en fait, comme je disais tout à l'heure, que c'est une littérature qui est très, très jeune, Et c'est qu'en fait, nous avons aussi hérité d'une histoire d'un pays qui fait que cette littérature-là n'a pas, ne donne pas une place à autre chose que une littérature engagée sur le plan politique et social aussi. Donc forcément, tous les romans qui naissent vont parler du pouvoir, d'une violence aussi sociale, etc. Donc du coup, le passage, en tout cas chez nous, dans cette littérature qui est très jeune, du coup, le passage de la politique au poétique, ou inversement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de passage, que tout finalement est lié. Donc ce sont deux thèmes, je dirais, si à moi, quoi, en quelque sorte. Et c'est lui qui écrirait un livre non engagé, je dirais. Par exemple, j'avais écrit un jour, parce que j'avais écrit un livre qui s'appelle Métro Bougainville, un livre très très noir sur la communauté comorienne de Marseille, avec des photos en noir et blanc de Jean-Pierre Velouani. Et puis pour sortir de ça, j'avais besoin d'une bouffée d'oxygène, j'ai écrit un recueil de poèmes d'amour. Mais c'est devenu un boulet que je me traîne en tant qu'auteur comorien. On m'a dit, ah, il a écrit des poèmes d'amour. Donc voilà quoi. Donc c'est-à-dire que voilà, on ne doit pas écrire autre chose que quelque chose de très engagé. J'avais même un ami qui m'avait dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Non, c'est parce qu'à un moment, je voulais parler d'amour, tout simplement quoi. Donc voilà, donc de ce point politique, on est attaché à ça. Par exemple, là, il va y avoir les élections législatives. On a à peu près 6 écrivains qui se présentent aux élections législatives. Mais ça ne ici, vous imaginez, donc on aurait parlé dans tous les journaux, quoi, que voilà, la République des lettres, alors qu'au Comores, c'est tout à fait naturel, quoi. Donc voilà. Et quand moi j'arrive aux Comores et que je parle de ma littérature et que si je ne parle pas de politique, on va forcément m'amener à parler de politique, quoi. Donc je pense aussi que je suis... pour ne pas dire le seul, parce que je fais partie des écrivains de la diaspora, comme on dit. Peut-être de temps en temps, je me donne un privilège de pouvoir parler d'autre chose que de la politique, quoi. Donc voilà.
On en rêve, hein, d'écrivains qui se présenteraient à des élections. Ça, c'est une sorte de... Je ne sais pas, mais oh, pourquoi pas. Bon, il faudrait faire l'expérience. Salim a franchi un pas, en quelque sorte, en parlant de littérature engagée, ce qui apparemment, dans le contexte comorien, a l'air d'être quelque chose d'assez naturel. Est-ce que, pour vous, Mehmet Yassim, la notion de littérature engagée est une notion que vous manipulez aisément et qui correspond à quelque chose pour vous dans votre trajectoire? C'est le terme par lequel vous souhaiteriez éventuellement que l'on détermine et que l'on qualifie votre pratique d'écriture?
Actually, I think I basically write about my personal experiences since my childhood, since young ages, poetry and experiences are linked each other, and it's important for me.
Moi, j'ai écrit à partir de mes expériences personnelles, et cela depuis dès le plus jeune âge. La poésie, pour moi, c'est la confluence de beaucoup d'expériences personnelles.
But of course, sometimes when you write your experiences, it's turned to very political statements. You see, I wrote a poetry to you about war and languages, so it was my personal experience, but it is also politics, isn't it? Or it depends in which way you would like to see it.
Bien sûr, voilà, donc j'évoque mes propres expériences et tout le monde se fonde sur ses propres expériences, mais d'une certaine façon, ça implique déjà une posture politique. J'en prends pour preuve le poème que j'ai lu et que j'ai fait lire, qui traite de la guerre et traite de la langue. Eh bien, ça, c'est mon expérience, mais en même temps, ça a partie liée avec la politique. Et donc, tout dépend, j'imagine, de votre posture et de votre point de vue.
Well, I think my main concern is to write poetry, that's it. Or to write novel, to write good good literary text. This is my main point. But of course, I have my ideas, my observations, things when you write, suddenly this or that political discourses put in some, you know, pigeonholes, you know. Recently, identity politics very fashionable. So everyone look or criticize your book through identity politics or multiculturalism, multilingualism, which they didn't aware of all these things 25 years ago, while it was in your poems is still this kind of elements, you see.
Donc ma préoccupation principale, c'est bien sûr la poésie et le roman que je suis en train de créer, de façonner. Et donc, en fait, mon but principal, c'est de créer un bon texte littéraire. Et bien sûr, évidemment, on vit dans un environnement donné dans lequel émergent certains discours, un discours politique notamment, et que vous pouvez recueillir des observations qui encourent à un moment donné sur l'identité, la politique, etc. C'est assez à la mode, ou ce fut à la mode à un moment donné, le multiculturalisme, le multilinguisme, alors qu'il y a 25 ans, ce n'était pas du tout au goût du jour, mais ça l'est maintenant, donc ça ça se trouve intégré dans ce que je fais.
For example, I wrote about my experiences during war. My home were burned down and looted, and some family members were killed when I was 5-6 years old. And it was 64. And then when I wrote my very first poems after 74, when our Greek Cypriot neighbors' house burned down and looted, and they became refugee. So, and Turkish authorities immediately blamed my writing, being a traitor, Greek supporter, you know, not acknowledge Turkish policy. And I suffer for this. My books banned, I deported, lots of political things happened to me. But my intention was not to make a political declaration. I just observed, and I just was unhappy when my Greek Cypriot neighbors killed or became refugee. But when I wrote this, then Greek authorities use it to prove that their cause right against Turkey and Turkish army. And when I say that, you see, I mean, lots of things came to me, not actually my experience is 74, but in 63, while I was 6 years old and my own home burned down by Greeks, you know. But, you know, each side tried to use it. They are not interested in literature and poetry, particularly if conflicts, war happen. Sorry. everything's easily could politicize. So I suffer for this, and I'm very careful on it to talk about this subject, to do this, because I'm not a politician. They want to give my writing extra political meanings. They are caused to destroy poetry, literature. If you became just a simple political militant, so you are not, your writing is not important. So this is the way. But it doesn't, by saying this, it doesn't mean that politics is not there, or I have no political conscience or no political meaning what I wrote. Sorry.
Donc donc j'en prends pour exemple mon expérience personnelle qui a trait à la guerre, parce que dans ma vie à moi, j'ai vu ma maison incendiée, j'ai vu ma maison pillée, j'ai vu des membres de ma famille tués, et ça à l'âge de 5 ou 6 ans, et cela date de 1964. Alors j'ai écrit mon premier poème en 1974, et donc j'ai continué à poursuivre ma carrière de poète après cette date. Or, cela s'inscrit, ça vient 10 ans après les événements dont je parle dans le cadre de mes poèmes. Et après cela, c'était mes voisins grecs qui ont subi la même souffrance. Ils ont vu leur propre maison incendiée, leur propre maison pillée. Ils ont vu leurs propres parents tués et sont devenus à leur tour des réfugiés. Donc, ce sont les autorités turques qui me pointent du doigt et me disent, voilà, en fait, parce que vous écrivez de telles poésies, la teneur de vos poésies nous fait croire que vous êtes forcément un partisan pour la cause grecque et donc vous ne reconnaissez pas du tout la politique turque. Mais moi, à cause de cela, je vois mes écrits interdit, je me suis vu déporté de la Turquie, alors que mes intentions premières n'étaient pas du tout de nature politique. Et je suis triste de surcroît de constater mes voisins grecs qui partent sur la route de l'exil. Et voilà. Et donc, d'une certaine façon, les autorités turques font cela, mais également les autorités grecques font main basse sur mon écriture parce que, du coup, ils prennent mon écriture comme fer de lance contre pour ferrailler avec les autorités opposées. Et donc, voilà, en 1963, j'avais 6 ans. Et voilà, mais... Les autorités, si vous voulez, ils ne s'intéressent pas du tout à la littérature, à la poésie. Ça ne les intéresse pas du tout. Ce sont les conflits dans le regret de constater. Et j'en souffre et je souffre également de voir mes écrits détournés au profit d'une posture politique qui n'est pas du tout la mienne. Donc, en conséquence de quoi, je suis très prudent. Je ne suis pas du tout un homme politique, mais il confère à mes écrits une dimension politique qui n'existe pas. Et donc, je ne pense pas que cela... je ne suis pas du tout militant politique et effectivement, cela doit être quelque chose qui doit être pris en compte par les parties prenantes dans cette histoire que je viens de décrire.
Oui, cet éclairage est intéressant parce que là, c'est la question, bien sûr, du détournement politique d'une écriture. Je vous voyais hocher la tête, Jean-Luc. Je ne sais pas si c'est une façon d'envisager aussi le passage du politique au poétique qui vous concerne et qui vous touche.
Bien sûr, ça me touche beaucoup ce qu'il avait dit tout à l'heure, parce que je retrouve un petit peu aussi mon parcours. C'était, c'est pas à 6 ans que j'ai eu cette conscience politique, c'était à 8. C'est que avant cela, comme on n'avait pas la télévision, comme la nuit tombe très très vite à Madagascar à 18h, c'est déjà la nuit et on ne dort pas à 18h, eh bien on se donnait des devinettes, on se donnait des contes. Et au fur et à mesure des soirées, j'étais devenu le conteur de notre groupe de notre groupe d'enfants. Et même les plus grands se taisaient quand je commençais à raconter. Et j'étais un petit peu la petite star de ces groupes d'enfants où j'avais un certain pouvoir. Si je voulais raconter, je racontais. Si je voulais faire attendre les autres, eh bien, ils attendaient. Et ainsi de suite, ça me plaisait beaucoup. Et surtout, des fois, je n'ai pas d'histoire. Et il fallait que j'y réfléchisse à une histoire, donc je le faisais attendre et au fur et à mesure, j'ai inventé des histoires comme cela. Et puis un jour, il y avait donc la révolution à Madagascar et les militaires ont envahi la cité, là où on habitait, et j'ai vu une scène qui m'a complètement frappé, c'est-à-dire le papa d'un de mes amis qui a été tabassé par les militaires. Et face à cela, je me suis retrouvé devant un vide, c'est-à-dire que je ne savais pas comment raconter ça. Et ça m'avait complètement traumatisé, ça m'avait complètement... pas parce que j'ai vu la scène, mais parce que j'étais dans l'incapacité de raconter tout cela. Et je savais que je ne pouvais pas mentir là-dessus. C'est-à-dire, quand je commençais à raconter une histoire, dans ma tête, je me disais que j'étais un grand menteur, mais ça me plaisait bien d'être ce grand menteur. Mais lorsqu'il y avait cet événement-là, Je ne voulais pas inventer là-dessus. Je voulais raconter cette chose, mais je ne savais pas comment raconter cette chose. Et c'est à partir de là que je me suis mis à écrire tout seul dans mon coin. Et à partir de là que j'ai cherché le mot juste que je n'ai jamais trouvé pour raconter tout cela. Et donc à chaque fois, j'essaie de réécrire les choses et je ne trouve jamais les mots justes. Et j'écoute aussi les politiciens, je me disais, mais ils parlent très bien. Est-ce que ce sont des mots justes qu'ils utilisent? Et je suis toujours confronté à toutes ces choses. Et en même temps, en grandissant, je voyais des enfants qui mendiaient dans la rue. Je voyais des amis à moi qui, il y avait par exemple une amie pas très proche, mais une amie de groupe qui, lorsqu'on était déjà un peu plus grand, le fait qu'il a eu il y a beaucoup d'agressions à Madagascar, parce que lorsqu'on s'habille bien, enfin lorsqu'on s'habille normalement, il y a ce qu'on appelle les panindaka, c'est qu'il vous attrape la nuit, il vous enlève vos vêtements et puis après ils vont vendre les vêtements chez les fripiers. Et ce n'est que ça. Et lorsqu'on est donc plus ou moins de la classe moyenne, on était des proies potentielles. Et cette jeune fille a été agressée comme ça, et violée et tuée. Et donc il y avait plein d'exemples comme ça au fur et à mesure que j'avançais en âge, au fur et à mesure que j'écrivais aussi. Et je me retrouve toujours devant cette question, comment raconter? Comment raconter l'irracontable? Comment raconter la honte? Comment raconter toutes ces choses? Et au fur et à mesure, lorsque j'ai commencé à publier, évidemment, je me servais de ces expériences personnelles pour écrire, sans jamais les raconter comme si c'était une biographie ou comme quelque chose qui est véridique. Mais pratiquement tous mes textes sont issus de quelque chose que moi j'ai vu, que moi j'ai vécu. Et forcément, lorsque c'est publié et que ça prend le statut du livre, ça devient quelque chose de dangereux pour le pouvoir. Et le politique rentre chez vous, dans votre écriture. Et c'est là où la question se posait après pour moi, est-ce que je continue où je vais simplement revenir à manier la langue, à écrire des histoires d'amour tout bêtement, ou à glorifier l'île qui est toujours très très belle. Et c'est une question de choix par la suite. Et ce qui a renforcé encore cela de manière très profonde, c'est que, disons que j'ai commencé ma carrière littéraire par une censure, par une double censure. La première censure qu'on connaît plus ou moins, c'est la censure de ma pièce de théâtre « Le prophète et le président », qui a eu une pièce qui a été censurée et à la fois par le gouvernement malgache et le gouvernement français, parce que le gouvernement français a interdit à notre troupe de jouir des structures de l'Alliance française. Mais la première censure, c'était, j'avais envoyé une nouvelle à un journal malgache qui s'appelle La Croix, et c'était un journal catholique, mais qui était un des journaux les plus libres du pays. Et lorsque il y avait un journaliste qui s'appelle le père Ralbir, c'est un père qui s'appelle donc Ralbir, et lui, il connaissait mon père, et il disait, je vais publier le texte de ce jeune homme-là. Et puis le jour de la publication, il avait le journal, c'était écrit « Nouvelle de Jean-Luc Lallemand » et « Page blanche ». C'était censuré par le pouvoir. Donc lui, il a tenu quand même à publier la page blanche, la colonne où mon texte devait être publié. Donc premier texte à publier, page blanche, Et pour, première pièce qui devait être jouée, censurée. Et bon, ça vous pose la question sur l'engagement. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'ai fait des pièces de théâtre, dernièrement, il y a la pièce 47. Et le gouvernement français censure aussi la pièce. Et ainsi de suite. Il y a tout un essai à écrire, en fait, sur la censure.
Cette belle définition finalement de l'écriture qui serait un comment. Ça, c'est intéressant l'idée que ce soit justement comment restituer la réalité de ce dont on est témoin. Et j'aime bien cette idée-là.
Oui. Pour moi, la question de l'engagement, c'est juste un débat pour amuser enfin, je dirais pas la galerie, mais c'est pas parce que vous parlez de vos expériences personnelles et qui sont politiques que ça va être une littérature qui serait moins intéressante que d'autres. Et je ne refuse absolument pas le terme de littérature engagée. Pourquoi pas ? Et que de toute façon, lorsque je parle de ces expériences-là, s'il y a une rage qui sort, et il y a aussi toujours cette question de se dire mais comment on peut vivre avec ça, nous-mêmes. Et je pose la question au lecteur, comment on peut vivre avec ça? Comment fait-on, comme si je suis toujours étonné de constater que les autres ne voient pas.
Sur la relation entre les trois témoignages de Jean-Luc, Mehmet Yashim et Salim, Neil Bissounda, je crois que là, il y a une différence importante pour ce qui vous concerne, c'est-à-dire que le lien avec le vécu n'est pas du tout le même chez vous. C'est-à-dire, je crois que lorsque vous commencez un roman, bien souvent, vos personnages n'ont que très, très peu de lien avec ce que vous êtes personnellement ou ce que vous vivez personnellement.
Non. Non, effectivement, il y a très peu d'éléments autobiographiques dans mes romans. Ce n'est pas ma vie personnelle qui m'inspire. C'est comme j'expliquais tout à l'heure, c'est plutôt les questions, ma curiosité, les questions que je me pose. Mais toute cette question de l'écrivain engagé, littérature engagée, m'intéresse énormément. Parce que je l'ai vécu jusqu'à un certain point. J'ai publié, comme vous avez mentionné au début, un essai au Canada, Le marché aux illusions, qui a critiqué la politique multiculturelle du Canada du point de vue de la perspective de quelqu'un qui était arrivé, qui a vécu les effets de la politique, qui était devenu canadien, fier d'être canadien, mais qui voyait qu'il y avait des effets néfastes sur la vie des individus, la vie des familles, la vie de la société. Et je voulais tout simplement écrire cet essai pour lancer un débat nécessaire, s'il me semble nécessaire. Le résultat était très intéressant. Le livre a créé toute une réaction très négative et très positive à la fois. Et même si je voulais déclencher un débat, et j'étais prêt à participer à ce débat, parce que je ne disais jamais que j'avais toujours raison, mais c'était des idées que j'offrais à la société, la réaction était toujours de tuer le messager. Juste pour illustrer ce que c'était, personne n'a voulu débattre des idées. Le ministre fédéral responsable me critiquait dans des discours au Parlement en disant que moi, je n'apprécie pas Neil Bissounda. Et ces idées, on n'en parle pas. Au point où j'ai des éditoriaux dans les journaux les plus importants ont dû me défendre. Je vous illustre cet engagement, ce que ça a donné, cet engagement de l'écrivain. Dans une interview en direct à la télé nationale un matin, ils avaient invité un journaliste d'origine pakistanaise, je crois. Et on m'a dit, comme on fait à la télévision, « Monsieur Bissounda, vous avez 30 secondes pour expliquer vos idées. » C'est la télévision. Alors, j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis, ils ont demandé au journaliste, « Qu'est-ce que vous pensez des idées de Monsieur Bissounda ?» Et sa réponse était, « Mais vous savez, Bissounda, c'est une personne, on l'appelle des noix de coco, brun à l'extérieur, blanc à l'intérieur. » Fin de critique, fin de débat. Alors, c'était ça, l'expérience était pénible. Alors, je me suis rendu compte, après 3 ans de discours, de conférences, de visites, que j'étais insatisfait. je crois que j'ai compris après tout cela qu'il n'y a plus de vérité dans les romans que dans les essais. Et le romancier devrait se concentrer sur les questions essentielles de la vie humaine. C'est ce que fait le roman, l'exploration des complexités de la vie humaine. Et c'est de là qu'on trouve des vérités humaines. Et c'est là, en effet, l'engagement de la littérature. La littérature engagée se fait dans le roman. Ce n'est pas l'écrivain qui est engagé, mais les personnages et l'exploration de la vie qu'il présente dans ce roman. Alors, je ne me décris jamais comme étant un écrivain engagé, mais je crois que forcément, à un moment donné, d'une certaine façon, toute la littérature est engagée.
Bon, je crois que à ce stade de la discussion, on peut peut-être céder un peu la parole à la salle et vous permettre de poser des questions, faire des remarques. J'ai pas vu, le temps a passé très très vite, j'avais pas vu qu'il était si tard, parce qu'il y a un autre débat qui suit dans peu de temps, mais on a un petit moment pour continuer l'échange avec vous, donc voilà, vos questions sont les bienvenues.
Si on n'a rien à dire, c'est peut-être parce que la qualité de l'échange était tellement forte et vous avez dit des choses tellement importantes, c'était très riche. Donc, on a encore l'écho de ces paroles. Mais j'avais juste envie d'entendre le troisième poème de Mehmet Yalçın. Voilà.
Et puis les âmes entament une autre vie sans crier gare. Arrive un jour où l'homme retourne à sa nudité, ne fait plus qu'un avec le tronc du caroubier qui embellit le coteau aride. Ray de lumière, les cieux s'ouvrent à travers ses branchages. Quand toutes les issues se ferment à toi, arrive, sept chandelles à la main, rapide comme 70 000 éclairs, la bouche embaumant le musc comme dans la Genèse, la troisième personne, et elle te donne le souffle. Voyant ce que nul ne peut voir, un chien se met à aboyer. Le diamant dans le cœur de Borak, ce sont d'abord les oiseaux qui le voient, insectes, herbes, vivants qui ont pu subsister en tant que nature. Et les âmes descendent s'aimer dans l'eau, avec la voie lactée en guise de voile de mariée. Comme change le climat dans les rochers déchirés par les canyons, comme s'élèvent soudain les lauriers de l'obscurité secrète du monde souterrain, comme pousse la rose que tu prenais en la regardant d'en haut pour une petite fleur des champs, grandissent, en s'abreuvant, des sources invisibles les racines de l'arbre. Mais elles boivent secrètement et ne se montrent pas à l'homme.
Ve sonra başka bir hayata başlar kimseye haber vermeden ruhlar. Gün gelir çıplaklığına döner insan. Gövdesiyle bir olur kıraç yamacı güzelleştiren harup ağacının. Dalları arasından ışık ışık ışık açılır semalar. Tüm yolların kapanınca elinde 7 kandil ve 70 bin kanatla uçarcasına gelir. Yaratılış anındaki gibi ağzındaki misk kokusuyla 3. kişi sana nefes verir. Kimsenin göremediğini görür ve havlamaya başlar bir köpek. Burak'ın kalbindeki elması önce kuşlar görür. Böcekler, otlar, doğanın parçası olarak kalabilmiş canlılar ve ruhlar. Saman yolunu duvak yaparak sevişmeye inerler suda. İklim nasıl değişirse kanyonların yırttığı kayalıklarda, nasıl birden defne gülleri yükselirse yeraltının sır loşluğundan sen yukarıdan bakarken ufak tefek kır çiçeği sandığın çingene pembesi nasıl büyürse büyür
ve su içer ruhların kökleri görünmez kaynaklardan. Gizlice içerler ama ve görünmezler insana.
Un olivier souffrait des... C'est à plusieurs voix, nous n'avons pas fini. Un olivier souffrait déploie ses jeunes rameaux. L'essence de la vie ressurgit, même si on la réprime, la force vitale reprend le dessus. Et la troisième personne apparaît. Sans carte d'identité ni permis de conduire, elle est esprit. Il y a en elle quelque chose comme de la poésie, mais qui ne se montre à nul autre comme à toi. Elle fait l'amour avec toi, son amant tu n'es pas. Elle te protège dans le monde où tu es laissé seul, son frère tu n'es pas. Elle donne sans attendre de retour, son enfant tu n'es pas. Elle est l'ami véritable, son compagnon tu n'es pas. Tu ne peux lui donner un nom, l'âme humaine ne souffre pas l'intrusion. Elle aspire au silence et à l'intimité des secrets de la vie.
Aşısız dallarını sarar, bir aşı zeytin, yaşamanın özü, yüzeye çıkar bastırılsa da, baskın çıkar doğanın gücü ve üçüncü kişi ortaya çıkar. Ne kimlik kartı bulunur ne sürüş ehliyeti ruhtur. Şiir gibi bir şey vardır içinde ama sana göründüğü gibi görünmez başka birisine. Sevişir seninle, sevgilisi değilsin. Kollar seni yalnız bırakıldığın dünyada, kardeşi değilsin. Almayı beklemeden verendir, çocuğu değilsin. En hasıdır dostların, arkadaşı değilsin. Bir at koyamazsın ona. Kurcalamaya gelmez insan ruhu. Sessizlik ister ve yakın olmayı hayatın sırlarına.
Si la troisième personne n'existait pas, nous ne serions pas toi, moi. L'olive et la caroube non plus qu'aiment les chèvres tachetées aux pattes velues, et les oiseaux ne pourraient trouver en l'homme une branche où se poser. On t'apprend certaines choses à condition de les garder dans ton cœur. Ce poème, par exemple. Les moissonneuses, les perforeuses creusent et creusent l'âme, l'apprivoisonnement est sans fin, on dégage des terrains en dynamitant la roche et on colmate habilement les fissures des murs. Ensuite, s'amorcent les infiltrations et se glissent par le toit où nichent les tourterelles, l'étoile polaire que tu as appelée de ton vœu.
Üçüncü kişi olmasa olamazdık sen, ben. Ne zeytin, ne harup paçalı benek keçilerin sevdiği, ne de kuşlar insanda bir dal bulabilirdi konacak. Kalbinde saklamak şartıyla bazı şeyler bildirilir sana. Bu şiir mesela. Biçer döverler, derin deliciler, kazarlar da kazarlar ruhu. Yoktur evcilleştirilmenin sonu. Kayayı dinamitle parçalayıp arsa açarlar ve ustaca sıvarlar çatlayan yerini. Duvarların. Sonra akıntı başlar. Kumruların yuva kurduğu çatıdan içeri sızar onu çağırıp dilek tuttuğun kutup yıldızı.
Les micocouliers font route vers un précipice où même les sentiers de chèvres sont coupés et l'escargot caché dans l'origan suit la trace. La troisième est celle qui adviendra inéluctablement comme surréelle car elle est nature laissée à elle-même. Ils la disent refuge ultime de l'âme, non. C'est ta solitude où pleuvent averses les étoiles, où tu peux être toi-même sans limite. Ton cœur le sait si bien que tu n'as pas à t'interroger à son sujet. Tout ce que tu as à savoir, c'est qu'elle est la troisième personne pour toi. Elle est aussi réelle que le vieil olivier, la trace de l'escargot ou le gouffre. Ils disent qu'elle est celle qui change le destin. Non, elle est le destin elle-même. Si tu la reconnais, tu te reconnaîtras aussi. Et si tu fais un pas de plus, tu apercevras la mer d'en haut. L'homme peut s'affranchir en se soumettant à son essence vitale, les poissons à l'infini de la mer, et le destin des oiseaux nés pour voler ne peut être que leurs ailes. Deux écrits sont là sur ton front, un bon, un mauvais. La nuit est là pour accéder au jour. La troisième, ni bonne ni mauvaise, est là comme l'ange du destin dépêché auprès de toi, et qui résiste au destin et condamné à vivre la vie d'un étranger.
Keçi yollarının da kapandığı bir uçuruma yürür çitlenbikler ve kekiklere gizlenmiş salyangoz iz sürer. Gerçekleşmesi kaçınılmaz olandır üçüncüsü, gerçek dışı gibi. Kendince bırakılmış doğadır çünkü. Ruhun son sığınağı derler değil. Sağanak halinde yıldızların yağdığı yalnızlığındır senin. O sınırsızcasına kendin olabildiğin. Kalbin öylesine tanır ki onu soru sorman gerekmez. Hakkında bilip bileceğin şey üçüncü kişi olduğudur sana. Eski zeytin ağacı salyangozun izi ve uçurum kadar kesindir. Kaderini değiştiren kişi derler değil, ta kendisidir kaderin. Onu tanıyabilirsen tanırsın kendini de ve az daha yürürsen deniz görünür yukarıdan. Can özüne boyun eğmekle özgürleşebilir insan. Balıklar denizin sonsuzluğu ile ve uçmaya doğan kuşların yazgısı kanatları olabilir yalnızca. Alnında iyi ve kötü iki yazı bulunur. Gündüze çıkmak için gece bulunur. Üçüncüsü ne iyisi olur ne kötüsü. Kader meleği gibi sana gönderilmiş bulunur. Ve kaderine direnen mahkum olur yabancının hayatını yaşamaya.
Merci beaucoup, merci à tous les six. Et c'était vraiment bien de finir sur cette lecture et le fait d'entendre cette langue absolument magnifique. Merci beaucoup à tous les six.